Depuis ce matin, nous sommes à Conques, l'une des merveilles du Rouergue, selon les mots de l'écrivain Daniel Robs. Conques, joyau de l'art roman. Conques, nichée dans un cercle naturel, la végétation luxuriante, et vers où depuis plus d'un millénaire, pour vénérer les reliques d'une jeune martyre, convergent des milliers de pèlerins. Conques, étape majeure sur les chemins de Saint-Jacques. Conques, où se mêlent et s'entremêlent l'art et la foi, un lieu qui, toujours selon Daniel Robs, parle et à l'esprit et au cœur. Ce mardi, dans le magazine Immersion, et en préambule à la série de reportages qui émailleront ce Triduum Pascal, vous avez pu écouter l'historien Pierre Lançon. Pour nous, ici à Conques, il a fait revivre plus de 1000 ans d'histoire. Aujourd'hui, dans les ruelles du village médiéval, nous avons rendez-vous avec Anne Remiguère, guide conférencière à l'Office de tourisme de Conques. Ce sont là nos premiers pas. Conques, un territoire, un village, une abbaye, une histoire.
Alors ici, quand on regarde déjà ce village, le visiteur, quand il arrive, il est souvent surpris parce qu'il découvre Conques à la dernière minute. Soit en descendant de voiture, soit en arrivant à pied. C'est un petit peu la nature qui environne, qui encercle Conques, qui protège ce village. Donc on le voit vraiment comme un jaillissement, un émerveillement soudain. Et c'est ce que les visiteurs nous disent souvent, c'est qu'ils sont ébahis, parce qu'ils le voient vraiment à l'instant, quand ils sont vraiment à proximité même des bâtiments. Donc c'est vraiment
un trésor caché.
Quoi. Un trésor caché. Alors on dit souvent, c'est comme une petite pépite dans son écrin de nature. Là, on n'a pas encore la végétation, mais quand la végétation est luxuriante, là, c'est spectaculaire. Alors le pèlerin qui arrive, il a marché pendant des kilomètres, il est fatigué, il est éreinté, il lui tarde d'arriver à Conques, il lui tarde de voir cette abbatiale. Et c'est vraiment à la périphérie des premières maisons de Conques, quand il est en haut de la rue de la Peyrade, qui descend vers l'abbatiale, tout d'un coup, ouf, elle surgit. Elle est là, juste devant ses yeux. Alors ça, c'est vraiment le... Ils ont cette expression qu'on voit souvent sous les visiteurs. Waouh ! Donc ça, c'est ce qui est marquant, bien sûr, à Conques. Alors, comme Conques est dans les montagnes, on est vraiment envahi de petites sources naturelles. Et les villageois se sont installés au plus près de l'église, aussi parce qu'on savait qu'il y avait l'eau. L'eau à proximité. Alors, toutes ces sources qu'on voit dans le village... Ce sont des captages d'eau depuis l'époque du XIe siècle, en souterrain, pour aller sur des lieux particuliers du village, là où il y avait une population assez nombreuse. Alors ici, nous sommes au pied de la résidence d'Adam, qui était au Moyen-Âge l'hôpital, l'hospice. Alors de nos jours, il n'y a plus d'hôpital, mais dans la fondation remonte au XIIe siècle. Et on comprend bien sûr la présence de l'eau, puisqu'il fallait à la fois abreuver les malades, il fallait pouvoir laver les plaies, le linge, etc. Et si on regarde sur la droite, nous avons un lavoir. Bon, pendant des siècles, on utilisait la fontaine pour tout et n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on pouvait faire boire l'animal, nettoyer les plats de la cuisine, aller faire sa lessive à l'intérieur. Quand sont arrivées les grandes épidémies, alors on pense à la peste, mais la dernière grande épidémie à Conques, ça va être le choléra. 1842, ici, ça a été l'épidémie de choléra. Et même si on n'avait pas cette notion comme actuelle du microbe, on se méfiait de l'eau. Donc on a préconisé d'utiliser des lavoirs, on a fait construire des lavoirs à certains lieux de fontaines, mais pas partout, pour que les femmes utilisent les lavoirs.
Vous m'avez parlé du XIe siècle, le village, les premières maisons, la première installation, c'est XIe siècle ou c'est
alors,
antérieur?
L'histoire de Conques commence bien avant. L'histoire de Conques, c'est d'abord un site religieux, puisque c'est avant tout un ermite qui s'installe ici du temps de Charlemagne. Donc là, on remonte vraiment à la fin du 8e, tout début 9e siècle. Il n'y avait pas, à ce que l'on sache, d'habitat autour. Il y avait juste une source d'eau, donc au pied de l'église actuelle. Pour la vie, tout simplement, il fallait de l'eau pour vivre. Et c'est la présence de cet ermite, qui peut-être était un parent ou un ami de la famille carolingienne, on ne le saura jamais. Tout est-il que le fils de Charlemagne, Louis le Pieux, en 819, va offrir des terres pour des moines, pour que des moines s'installent ici à Conques, auprès de cet ancien ermitage. Donc l'ermite, lui, est parti se retirer ailleurs. Mais les premiers moines bénédictins vont recevoir donc les terres, la protection royale et la garantie aussi de pouvoir se développer quelque peu. Ça va durer pour un temps, mais Conques n'étant pas vraiment connu, c'était un monastère bénédictin parmi tant d'autres, arrive les années 850, il y a un souci de survie du monastère et on sait qu'ailleurs, la présence de reliques a permis l'afflux de pèlerins, l'afflux de donations. Donc les moines vont avoir recours à ce qu'on appellerait de nos jours une sorte de vol déguisé de reliques. Mais à cette époque, on ne volait pas, qui plus est un moine. On faisait ce qu'on appelait une translation furtive de reliques. Ça vient du latin, ne se trompons pas. Translatio furtivo, qui veut dire transfert secret. Donc était-ce un vol ? On ne saura jamais, puisque ça a été fait en secret. Alors les historiens penchent plutôt pour la mise à l'abri, parce qu'on est à l'époque des Vikings, et qu'il y a eu, notamment dans la ville d'Agen ou Toulouse, il y a eu quand même des attaques vikings, et il y avait cette crainte de voir les reliques jetées aux rivières. L'or, l'argent, certes, étaient pris par ces guerriers, mais il y avait aussi la crainte de voir l'objet sacré jeté comme un objet quelconque. Donc il y avait souvent ce recours de petits stratagèmes, de déplacer la relique pour un temps. Tout est-il qu'à Conques, on les a toujours. On ne les a jamais ramenés à la ville d'Agen.
Ce sont les reliques de...
Donc ce sont les reliques de Sainte-Foy. Une jeune martyre qui est morte au IVe siècle, au moment des grandes persécutions sous Dioclétien, qui malgré son jeune âge, elle avait 12-13 ans, a refusé d'abjurer sa foi chrétienne et a été torturée et ensuite martyrisée. Bon, ici, elle a été faiseuse du miracle. On disait que Sainte-Foy rendait la vue, libérait les captifs, guérissait bien des maux. Et progressivement, les pèlerins vont commencer à devenir de plus en plus nombreux. L'église va devoir être agrandie. Qui dit chantier, dit main-d'œuvre. Main-d'œuvre, c'est toute la population civile. C'est l'afflux de ces populations qui vont venir construire ce grand chantier pendant 100 ans, qui vont s'installer, on pense, progressivement autour de cette abbatiale. Alors il y avait les bâtisseurs, mais il y avait aussi les marchands, les taverniers, toutes ces populations qui gravitent autour des chantiers, comme on voit de nos jours, qui s'installent autour de l'enceinte du monastère. Le monastère est encore un peu encerclé. Quand on arrive sur la place de l'église, on voit des bâtiments qui font un petit peu un arc de cercle. C'est les anciennes murailles. Et le village, lui, est autour. Et selon la pente, bien sûr. Alors là, on est dans la rue du Haut. Et on va aller vers la rue du Bas. Où on a aussi, on avait aussi un grand nombre d'artisans et de populations qui se sont installées. Alors ici, on est au plus près... dans la rue du Haut, au plus près de la porte de fortification. On l'oublie parfois parce que des murailles, il ne nous reste pas grand-chose au niveau du village, mais nous avons des portes de fortification. Conques était un village fortifié, un bourg monastique rattaché au monastère. Et ce qui nous reste des anciennes murailles, donc ce sont les portes d'enceinte. On voit l'épaisseur de mur qui peut aller jusqu'à 3-4 mètres d'épaisseur. Il y avait certainement des vantaux de bois ou des herses, on ne les a plus, hein, parce que quand est arrivé l'automobile, c'était difficile d'accès, donc on a enlevé tout ça. Mais ça allait vers les rues principales, donc ici la rue Haute, ou la rue qu'on appelait des Cordonniers, ou la rue du Couvent, épousait la courbe de la montagne. Elle n'est pas très large, elle a la largeur d'une charrette, mais elle n'était jamais vraiment rectiligne, puisqu'il fallait aussi conserver ce souci défensif en cas d'attaque. Ouais. Les villageois devaient pouvoir s'échapper, s'embusquer entre les maisons, voire on pouvait ralentir ainsi le chevalier ou le cavalier qui fonçait au plein galop, le cheval lui ralentissant s'il voit le virage. Alors au plus près de la porte d'enceinte, nous avons un château, alors une grande demeure, qui est datée du XVIe siècle, bien après la construction du village. Le village va s'étaler dans le temps. On est certainement entre le XIe voire XIXe siècle pour les bâtis. Les bâtis les plus récents sont même du XXe siècle, il y en a très peu. Mais la plupart, c'était autour du XIe et voire XVIIe siècle. Donc ici, on a encore un très beau bâtiment du XVIe, XVIIe.
Ah oui, avec les fenêtres
à moineaux. Avec les fenêtres à moineaux à croisillon. Bon, c'est une demeure privée, on ne peut pas visiter, mais là, on est vraiment sur... une demeure qui montrait le prestige, le pouvoir, peut-être qu'avait cette famille. Ils avaient des terres, ils étaient de la famille de la noblesse locale. Et on montrait son statut social aussi par les décorations, la façon de construire sa maison. Une maison en dur, évidemment, montre qu'on a les moyens financiers de construire une maison en pierre jusqu'à la toiture. Alors que la plupart des maisons du village, on le voit, le soubassement c'est la pierre, l'étage c'est le colombage, c'est le pan de bois et les remplissages. Alors, on va redescendre un petit peu. Alors ici, je vais vous montrer juste cette petite pierre. C'est un témoignage du bâti qui évolue. Ça, c'est une pierre du XIe siècle. C'est un bout de toiture, un modillon, une pierre qui soutenait une toiture avec un motif d'animal. On voit des cornes, donc c'est peut-être un bœuf, qui était disposé dans le bâtiment, dans le cloître certainement. À partir du XVIe siècle, le cloître n'est plus utilisé. Il y aura une réforme du monastère. Les bénédictins vont être remplacés par un collège de chanoines. Et les chanoines n'étant pas obligés à la vie en collectivité, ils vont prendre des maisons dans le village. Et le cloître, qui était certainement un peu vétuste, désuet, plus très confortable, va être utilisé comme carrière. Petit à petit, les choses disparaissent. Et de temps en temps, on découvre ici et là une pierre qui fait juste de la décoration dans le village. Des fois, c'est sur une façade de maison, des fois, c'est sur un petit bout d'escalier comme ici. Et ça rappelle que c'est toujours dans Conques, mais c'est pas dans son emplacement d'origine quand même. C'est du remploi. Alors ici, nous sommes sur le chemin de Saint-Jacques. On va s'avancer juste un tout petit peu pour se rendre compte un petit peu par où passaient les pèlerins. Alors quand ils quittent Conques, ils passent la porte qu'on appelle la porte du Barry, qui est sur la rue Charlemagne. Le Barry, ça marque l'entrée du faubourg. Barry, en occitan, c'est faubourg, tout simplement. Donc ces portes, c'était aussi des lieux de contrôle. Il y avait des garnisons
qui surveillaient. L'octroi, c'est ça là.
Oui, c'était l'octroi, le péage, on dirait, de nos jours. Mais c'était aussi pour, comment dirais-je, différencier ceux qui habitaient dans le faubourg de ceux qui habitaient dans le bourg. Le bourg, ça donnait les mots bourgeois. On sait qu'il y avait des artisans qui travaillaient dans le bourg, mais en général, tous les métiers de préparation, comme le cuir, tout ce qui dégageait des odeurs était souvent relayé vers le bas. La belle société ne voulant pas avoir toutes ces odeurs dans les narines. Donc les tanneurs, ceux qui travaillaient le chanvre pour assouplir les fibres pour le tissage, ici c'était une culture très, très, très importante, étaient relégués un petit peu dans ces quartiers-là. Alors le pèlerin, quand il quitte Conques, eh bien, il quitte le bourg, il passe par le Barry, le faubourg, et ensuite il arrive au pont des pèlerins, est en contrebas, au-dessus de la rivière du Dourdou. Et tout ce qu'il a bien descendu, il va falloir le remonter puisqu'on est dans les montagnes. Alors il arrive, on ne va pas aller jusqu'au pont aujourd'hui. Je pense qu'on peut voir déjà par où le chemin descend. C'est un chemin assez raide, donc il faut être bien sûr bien entraîné à Conques. Quand on fait le chemin, c'est pas de la plaine. Et il passe devant une fontaine. Donc la fontaine du Barry, puisque nous sommes dans le
pont. Nous arriverons jusqu'au pied de la monumentale abbatiale. Et dans les jours qui viennent, toujours en compagnie d'Anne Remiguer, nous pénétrerons dans cette nef impressionnante, 22 mètres 10 de hauteur. Nous admirerons la voûte en berceau avec ses 6 arcs doubleaux. Anne Remiguer nous commentera quelques-uns des 250 chapiteaux historiés. Avec elle, nous monterons dans les tribunes. Elles nous offriront une vue plongeante sur une forêt de chapiteaux. Mais pour l'heure, retour en arrière. Face à l'abbatiale, nous retrouvons le frère Pierre-Adrien, recteur du sanctuaire. Il nous invite à lever les yeux vers le tympan, chef-d'œuvre de la Renaissance romane, expression de la foi de ces hommes du XIIe siècle. Mais aujourd'hui, à 3,50 m du sol, par-delà les siècles, quel message nous transmet-il à nous, passants de ce XXIe siècle ?
Il représente le jugement dernier. On a au centre le Christ qui règne, il trône au milieu d'une mandorle. Et puis il est victorieux, on voit les anges qui portent la croix, signe de son triomphe, et le clou et la lance. Et puis on a tout en haut les anges qui sonnent de la trompette pour inviter tout le monde au jugement. Et quand on descend juste en dessous des pieds du Christ, on voit à gauche les défunts qui sortent des tombeaux, il y a les anges qui leur ouvrent les couvercles des tombes. Et puis ensuite, on voit un ange en face d'un démon. L'ange, c'est Saint-Michel qui tient la balance. Et en face, le démon qui triche. Il appuie sur le doigt avec son index, sur la balance. Et il essaye de détourner le regard de l'ange pour que ça penche du mauvais côté. Mais là, ça penche du bon côté. Puis après, si on redescend, on voit à droite... bien le paradis, la Jérusalem céleste, et puis à gauche, l'enfer. Voilà en gros.
Le visuel est posé, mais pour autant, il nous manque encore des clés de compréhension.
comme les gens souvent n'ont pas de connaissances théologiques, ils ont du mal à le comprendre. Qu'est-ce que c'est que ce jugement? Parce que ça fait très peur, hein, on s'imagine. Accusé, levez-vous, vous allez en prendre pour 30 ans de purgatoire, ce qui est assez effrayant, quoi. Hein. Alors, si vous allez regarder les sculptures, c'est très intéressant. Vous voyez, du côté du démon, dans la balance, vous avez une tête. En fait, vous pouvez mettre votre tête et le démon est en train de tricher, de vous enfoncer. Hein, c'est ce que fait le mal. Et puis, de l'autre côté, dans la balance, on a sculpté deux croix. Donc, c'est la croix du Christ. Hein, c'est le Christ qui nous sauve. C'est un tympan, mais c'est un jugement, mais c'est un jugement de salut. Hein, et il y a une deuxième croix. Alors, je me suis longtemps demandé ce que c'était. Et je crois qu'en fait, il faut aller lire la Bible pour interpréter notre tympan. Et alors, vous pensez à la croix du Christ, mais quelle est la deuxième croix? Eh bien, moi, j'entends que celui qui veut venir à moi, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Eh oui, ça ne suffit pas, on n'est pas sauvé sans notre volonté. Si on ne met pas notre désir d'être sauvé, on ne peut pas être sauvé. Et donc, on a un Christ qui est à la fois juge et qui est avocat, puisque sa croix est dans la balance. Donc, il faut avoir une vision du jugement beaucoup plus large que ce qu'on voit dans les séries télévisées. Voilà. Alors, si on descend, donc on a notre paradis à gauche et notre enfer à droite. Alors, la question que j'aime bien poser aux gens, mais c'est... bon, vous êtes à l'époque médiévale, comment vous faites pour sculpter un paradis et un enfer? Parce que, quand on regarde dans les textes bibliques, on n'a pas grand-chose, on n'a pas... On ne raconte pas tout ce qui est décrit dans l'enfer, avec des gens, des démons qui mangent le crâne, qui arrachent la langue, qui pendouille un avare. Tout ça, on ne l'a pas dans la Bible. De même, on ne nous dit pas qu'au paradis, on est dans une espèce de petite maison, de grande maison plutôt, avec des arcades, deux par deux. On ne nous raconte pas tout ça. Alors comment on fait? Et je crois qu'on fait, en fait, pour interpréter ce tympan, il faut faire de la théologie. Et si vous regardez, au paradis, dans la Bible, on ne vous dit pas beaucoup de choses. On vous dit qu'on y sera bien. On nous dit que Jésus nous a préparé une place. On nous dit qu'on sera dans la joie. On a l'image du grand repas, hein, du banquet céleste. Mais on n'a pas ce qui nous est dit. Mais il y a une chose qu'on dit, nous, les chrétiens. On dit que les chrétiens, en fait, sont ceux qui veulent goûter aux prémices du paradis, qui, dans le baptême, sont morts avec le Christ pour ressusciter avec lui. Les chrétiens, c'est ceux qui veulent anticiper le paradis, qui veulent commencer un peu à le goûter, à être avec Dieu, à vivre sur la terre comme au ciel. Mmh. Et donc, si je suis sculpteur, certes, je ne peux pas décrire le paradis parce que personne n'y allait, sauf Jésus qui ne nous en a pas dit grand-chose. Enfin, si, il y a des visions, mais les visions, c'est pas le réel, c'est dangereux, ça peut être des illusions aussi. Alors, concrètement, la théologie, c'est plus précis, et puis c'est plus, on risque moins de dire des bêtises. Et donc, en fait, si les chrétiens, ils anticipent le paradis, décrivons la foi chrétienne, et nous décrirons le paradis. Et de la même manière, le mal, c'est commencer à se construire un petit enfer. C'est se façonner un enfer. Et donc, décrivons le mal et on décrira l'enfer. Donc, en fait, la partie gauche du tympan, à droite du Christ, donc, eh bien, vous avez toute une description de la vie chrétienne. Ça commence au centre avec Abraham et ses enfants. On est tous des enfants d'Abraham dans la foi, par la foi. Mmh. Et puis, vous avez les prophètes, et ensuite, vous avez les évangélistes. Voilà, nous, on est, comme chrétiens, on se nourrit de toutes les Écritures, et on rentre dans cette grande histoire du salut, qui va des prophètes jusqu'au Nouveau Testament. Et puis, à droite d'Abraham, vous avez des martyrs, et un martyr, c'est le témoin du Christ jusqu'au bout, et c'est ça ce qu'on veut vivre, nous, on veut être témoin du Christ, quoi qu'il arrive, jusqu'au bout, dans les difficultés comme dans le bonheur. Et puis vous avez les saintes femmes qui vont au tombeau, elles portent un flacon de parfum, le parfum qui est symbole de la piété. Vous savez, on embaume le corps du Christ, les saintes femmes, elles embaument son corps. Et puis, c'est aussi le parfum de sainteté, le parfum de bonne odeur. Un chrétien, c'est quelqu'un qui veut diffuser la bonne odeur du Christ. Et puis, vous avez ensuite les vierges... sages, elles veillent, elles ont leurs lampes allumées et elles méditent les Écritures. Et ça aussi, les chrétiens, un chrétien, c'est quelqu'un qui veut être toujours éveillé, prêt à accueillir le Christ qui vient à tout moment. Ça continue, on a sainte foi en adoration. Un chrétien, c'est un adorateur de Dieu. Et puis, le registre supérieur, c'est en même temps qu'on nous raconte la vie chrétienne, on nous raconte aussi l'histoire de Conques avec les saints, particulièrement aimé de Conques. Ça commence par la Vierge Marie et Saint-Pierre. Avant cette église, il y avait une église consacrée à Saint-Pierre, la Vierge Marie et le Christ Sauveur. Et puis Dadon, le fondateur de Conques. Et puis ensuite, un moine, j'aime bien y voir le premier disciple de Dadon, Médraldus, qui est dans les textes anciens présenté comme cofondateur de Conques. Et il donne sa main à Charlemagne. L'abbaye est fondée en 800. Par Dadon, mais reprise par Charlemagne et Louis le Pieux. Et puis ensuite, vous avez des personnes qui offrent des offrandes. Saint Jérôme, un saint, on ne sait pas lequel, on aime bien dire que c'est Saint Jacques, parce qu'on est sur le chemin de Saint Jacques, mais ce n'est pas sûr. Et puis une martyre et Marie-Madeleine, qu'on aime beaucoup à Conques. On a des reliques de Marie-Madeleine aussi. Voilà, ça continue avec des phylactères, vous savez, c'est les ancêtres des bulles de bande dessinée. Fides spes, caritas, foi, espérance, charité, les trois vertus théologales. Temperantia, l'une des quatre vertus cardinales, est fondamentale pour les moines, hein, la tempérance, l'art de du juste milieu. Et puis l'humilité, vertu reine, dans la règle de Saint-Benoît, on est dans une abbaye bénédictine. Voilà ce paradis. Puis l'enfer, c'est pareil, il y a tout un tas de péchés, c'est des caricatures, on se moque du mal. Voilà, et c'est assez drôle, il ne faut pas le voir forcément comme quelque chose d'effrayant pour faire peur. Non, c'est beaucoup plus ample que ça. Alors on dénonce l'orgueil avec un chevalier, avec sa cotte de mailles qui tombe de son cheval, des luxurieux qui sont attachés, un paresseux qui sert de paillasson au diable, un avare qui est pendu. Oui, c'est de la dérision et c'est de la caricature. C'est très intéressant à méditer. Vous voyez, moi je me dis, quand j'ai des accès de paresse, je me dis non, je ne veux pas ressembler au paillasson du diable. Voilà, ou par exemple, l'avare, j'aime beaucoup, c'est une caricature très intéressante. Il a la bourse autour du cou, et puis il a un serpent qui lui rentre dans l'œil. Ce qui fait qu'il est pendu, il est pendu. Et alors, pendu, mais comme Judas. Voilà, Judas qui a préféré 30 deniers au Christ. Alors quand on voilà, c'est ça l'amour de l'argent, on préfère des espèces sonnantes et trébuchantes à des choses peut-être beaucoup plus importantes comme la relation à l'autre ou Dieu. Et puis justement, il a un serpent qui lui rentre dans l'œil, donc il peut voir qu'il a plus qu'un seul œil qui lui sert à regarder son argent, il peut plus voir le reste. C'est une magnifique caricature, vous voyez, et on pourrait tous les faire comme ça. Et tout en haut, vous avez des moines dans des filets, avec un père abbé qui monte ses fesses au Christ quand même. Hein. C'est assez catastrophique, en se prosternant devant un démon. Et ça, j'aime bien, hein, parce que je dis aux gens, c'est parce que l'habit ne fait pas le moine. Hein. Ce n'est pas parce que j'ai un bel habit blanc que mon cœur est aussi blanc que mon habit. Et j'aime bien montrer parce que ça veut dire que... Bonjour Michel. J'aime bien montrer tout ça parce que ça veut dire en fait que les premiers lecteurs, les premiers bénéficiaires du tympan, c'est les moines. Ils se racontent, c'est leur programme de vie. Une église, ça représente le paradis, c'est le vestibule du paradis. Et donc on met un jugement dernier très traditionnellement à l'entrée des églises, parce que, en fait, alors ça s'appelle de l'eschatologie, on nous dit, toi qui veux rentrer dans cette église, est-ce que tu es prêt à prendre le Christ comme maître, comme roi, à embrasser la vie chrétienne, à rejeter le mal, pour pouvoir commencer à goûter le paradis. Voilà. C'est pour ça qu'on met un jugement dernier à l'entrée. En fait, le tympan, c'est le tambour. Et j'aime bien montrer, c'est le tympan comme dans une oreille. C'est ce qui nous fait passer de l'extérieur à l'intérieur. Il est là pour nous faire entrer dans l'église et dans son mystère. Voilà. Et d'ailleurs, si un parvis, ça s'appelle un parvis, c'est parce que c'est à cause du paradis douce, c'est-à-dire le moment d'attente avant le paradis dans la théologie médiévale. En fait, on est dans l'eschatologie, c'est-à-dire que en même temps qu'on raconte les fins dernières, mais en même temps, c'est aujourd'hui que ça se joue, c'est aujourd'hui le jour du salut, c'est aujourd'hui qu'on doit se décider pour le Christ, rejeter le mal, choisir d'être jugé, c'est-à-dire d'être sauvé par le Christ, pour commencer à goûter quelque chose de la vie avec Dieu, quelque chose du paradis. Voilà. Vous voyez, tout, quand vous sortez, ils sont très connus. Vous avez les petits curieux. C'est des anges qui tiennent un phylactère. Et alors, vous voyez, ils vous regardent. Comme si, enfin moi j'aime bien imaginer que leur fonction, c'est de nous faire entrer dans ce tympan. Qu'on devienne contemporain de ce tympan. Et donc il est tout à fait actuel. C'est pas un tableau qu'on regarde à distance. C'est une interpellation qui est faite à chacun pour l'inviter à embrasser la foi chrétienne.
Demain, nous poursuivrons notre découverte. Nous franchirons les portes du prieuré à la rencontre des 7 frères prémontrés qui, engagés dans la vie paroissiale et diocésaine, dans l'animation du sanctuaire et dans l'accueil des pèlerins et des retraitants, vivent, prient et travaillent à Conques tout au long de l'année.